Et à 9h54 sur France Culture, il est temps de vous retrouver. On a entendu votre rire et vos remarques, Amélie Meffre. Donc, pour votre chronique mensuelle autour de la loi, un saut dans la loi, on revient aujourd'hui sur une ordonnance du 13 juillet 1967, parce que vendredi dernier, le ministre du Travail avouait l'échec du gouvernement face à la montée du chômage. Les chiffres publiés faisaient état d'un nouveau record de 3 500 000 demandeurs d'emploi sans activité. C'était l'occasion pour vous de rappeler cette ordonnance du 13 juillet 67, qui a créé quoi? Eh bien, l'ancêtre de Pôle emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, Amélie.
Et oui, et c'est une des premières tentatives gouvernementales pour combattre efficacement le chômage, car force est de constater que l'État est resté longtemps frileux en la matière.
Alors, auparavant, on appelait ça d'ailleurs le service de la main-d'œuvre, moi je me souviens ça, avant la naissance.
Mais bon, remontons plus loin, soyons assez honnêtes, il y eut tout de même quelques mesures avant ça. Le 20 août 1914, le directeur du travail, Arthur Fontaine, met en place un fonds national du chômage. Il sert à indemniser les travailleurs ayant perdu leur emploi du fait de la guerre et de la désorganisation des activités. Des fonds sont accordés aux caisses mutuelles syndicales ou aux caisses d'assistance, créées par certaines collectivités, départements ou communes. Mais bon, pas question de se la couler douce, si j'ose dire, un contrôle individuel strict est effectué. Sous le Front populaire, comme le rappellent Christine Daniel et Carole Turcher dans L'État face aux chômeurs, il ne se passe pas grand-chose. À la Libération, il y a débat entre le ministère du Travail et celui de l'Économie pour intégrer le risque du chômage au sein de la Sécurité sociale. Ce ne sera pas le cas. En fait, il faudra attendre 1958 pour qu'une convention soit signée entre patronat et syndicats instaurant un régime d'assurance chômage. Il est géré par des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les ACEDIC, fédérées par l'UNEDIC.
Et l'État, de son côté, prend des mesures ?
Prend quelques mesures. En 62, par exemple, il met en place une bourse nationale de l'emploi pour le placement des rapatriés d'Algérie. Et l'année suivante, il crée le Fonds national de l'emploi, le FNE. Ce dernier permettait aux travailleurs licenciés d'au moins 57 ans de bénéficier d'allocations jusqu'à leur retraite. Il sera supprimé en 2011. Cette pré-retraite licenciement va commencer à être utilisée dans certains secteurs en crise, comme celui de la construction navale à Saint-Nazaire en 64. Bon, mais les choses ne vont pas s'arranger, les restructurations vont s'amplifier quelques années plus tard, notamment dans le Nord, où les trois industries de base, charbon, textile et sidérurgie, sont en crise. En janvier 1967, le Premier ministre Georges Pompidou déclare « Nous sommes devenus une société industrielle moderne. À partir de maintenant, nous devons concevoir l'emploi comme un problème permanent. » Il ne croit pas si bien dire, même si la France ne compte alors qu'environ 300 000 chômeurs. Alors déjà en 1965, les rédacteurs du cinquième plan, vous savez, on était en plein planification, pointaient la nécessité de mettre en œuvre une politique active de l'emploi. Deux ans plus tard, François-Xavier Ortoli, le commissaire général au plan, charge le chef des affaires sociales, Jacques Delors, et son équipe de préparer un rapport en vue d'une réforme indispensable.
Alors ce rapport est rendu en avril 67.
Oui, et il affirme que la mobilité accrue de l'emploi est inéluctable et qu'elle est compatible avec le plein emploi dès lors que l'expansion est suffisamment soutenue et diversifiée. Donc l'idée de créer un service public de placement est avancée. Deux positions sont alors présentées au gouvernement. Celle du ministre des Affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney, qui ne conçoit une agence de l'emploi que subordonnée à l'autorité publique, et puis celle du secrétaire d'État à l'emploi, Jacques Chirac, qui plaide pour un service autonome à vocation presque commerciale. Enfin, quoi qu'il en soit, le gouvernement décide de créer un vaste service public de l'emploi, l'ANPE donc. Pour ce faire, il passe en force via une ordonnance le 13 juillet 1967. Il passe en force parce qu'il faut faire vite, éviter de longs débats, d'autant qu'un an plus tard, l'ouverture du marché commun est prévue, et avec elle, une concurrence accrue. Alors des agences ANPE se mettent rapidement en place un peu partout sur le territoire, avec la vocation de devenir, selon le premier directeur de l'ANPE, Guy Servat, l'interlocuteur de ceux qui recherchent un emploi ou un meilleur emploi, comme de ceux qui offrent des emplois par la qualité de son accueil, la valeur de ses informations et l'efficacité de son action de placement. Si fin 1971, la France compte quelques 500 000 chômeurs, la moitié d'entre eux retrouvent un emploi au bout d'un mois.
Eh oui, ça va vite.
Eh oui, la situation a bien changé, mais pas la méfiance des responsables politiques quant à l'honnêteté des chômeurs. Ainsi, il y a 47 ans, Georges Pompidou déclarait « Nous vivrons désormais toujours menacés par la concurrence. Le rôle du gouvernement est d'en diminuer les risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections. » Je dois dire que l'histoire lui donnera raison, les protections n'ont cessé de diminuer et les contrôles de s'accroître.
Merci, ça c'était la petite patte d'Amélie Meffre à la fin de sa chronique. On peut lire sur ce sujet Christine Daniel et Carole Touchirère, donc l'État face aux chômeurs, l'indemnisation du chômage de 1884 à nos jours. C'est paru en 1999 chez Flammarion, ça vous a aidé à préparer cette chronique. Merci et vous revenez évidemment le mois prochain, Amélie Meffre.